Notre Père céleste, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Te remercions pour ce jour que tu as donné, que tu nous donnes, avec ses problèmes et ses résolutions, mais où néanmoins nous pouvons voir ta main agir. Comme les mauvaises choses, nous permet de voir ta splendeur, de voir ta présence ainsi que ta conduite. Si nous faisons ce qui est mal, si nous t'attristons, nous le ressentons. Si nous faisons ce qui est bien, nos cœurs se réjouissent et nous le sentons. Pour nos offenses, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner et nous assister dans chaque jour qui avance et dans les problèmes que nous rencontrons, les deuils que nous avons à éprouver, les bénédictions que nous voyons dans nos maisons. Ainsi que tout ce qui peut, ô Dieu, nous rendre encore plus près de toi, plus proche de toi. Assiste-nous ce soir dans ce rassemblement. Que tu sois également avec nos bien-aimés qui travaillent, avec ceux qui sont malades, avec ceux qui sont empêchés de venir, et ceux qui sont fatigués, veuillent renouveler leur force. Que ta grâce nous environne. Bénis ta parole encore ce soir. Pour les cantiques qui sont montés vers toi, pour les prières qui t'ont été adressées. Veuille les exaucer et que nos cœurs expriment leur reconnaissance à ton égard. Ouvre-nous ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Allons lire dans 1 Corinthiens 9. Les deux derniers versets, 26 et 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. L'apôtre nous dit, il court. C'est le titre. Je cours, non pas comme à l'aventure. Un chrétien n'est pas un aventurier. Nous ne sommes pas ici dans une aventure. Nous savons où nous tenons. Je l'espère. Chacun doit savoir où il se tient. Quand nous nous levons pour les Écritures, pour lire les Écritures, nous devons savoir pourquoi nous nous levons. Ce n'est pas juste un rituel. On doit savoir ce que ces Écritures représentent. Je sais où je me tiens. C'est la position d'un chacun. Je ne me laisse pas ébranler par qui que ce soit, ni quoi que ce soit, qui viendrait hors de la parole. La seule chose qui m'ébranle, c'est la parole. Ça me secoue, si ça doit me secouer. Ça me met bien à l'aise, si elle doit me mettre bien à l'aise. Je sais une chose, c'est que cette parole est la vérité. Depuis au commencement jusqu'à Amen d'Apocalypse. C'est rien d'autre que la vérité. Les cieux et la terre existent par cette parole. Ça a été écrit au commencement. Dieu a dit que la lumière soit. C'est écrit. Cette parole prononcée par la bouche de Dieu a été rendue manifeste. La lumière fut. Mon problème, ce soir, en regardant les promesses qui sont dans les Écritures, mon problème n'est pas d'absolument savoir si les tonnerres sont révélés ou pas, mais mon problème, c'est de trouver le chemin de la vie. Selon ce que Christ a dit, il y a deux chemins. Nous l'avons lu plusieurs fois cette semaine-ci, dans Matthieu 7. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui trouvent ce chemin. Ce qui fait trouver le chemin n'est pas facile. Mais je ne regarde pas à la difficulté, ni même à la facilité. Je regarde à celui qui peut m'y conduire. Verset 13, Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous ne suivons pas le nombre. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens que c'est bon. Il faut qu'on en arrive à un point où, sachant où nous en sommes, chacun, que le nombre ne nous ébranle pas. David, ça ne l'ébranlait pas. Il disait que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne bronche pas. Amen. Ce n'est pas au nombre de gens qu'on regarde. Si on regardait au nombre, vous savez, Jésus, une fois, il avait plus de 80 disciples et il a parlé. Il y en a 70 qui sont partis. S'il fallait suivre le nombre, on suivrait les 70. Mais 12 sont restés. Et il leur a demandé, pourquoi est-ce que vous venez, vous ne partez pas? Ils ont dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il faut savoir pourquoi nous le suivons. Ce n'est pas une aventure du tout. Quelqu'un qui va à l'aventure, c'est quelqu'un qui n'a pas de but bien précis. Il regarde ce qui peut lui arriver en cours de chemin, s'il peut s'en sortir ou pas. Mais non, nous avons un but bien précis. Jésus dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc, et la porte et le chemin. Puisque mener est au pluriel, troisième personne du pluriel, qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mon problème est de me retrouver parmi ce peu-là. C'est notre problème à tous. Et quand on trouve ce chemin, on ne l'emprunte pas de manière nonchalante. Il faut marcher d'une démarche ferme ou bien même faut courir. Maintenant, il ne faut pas courir comme un oiseau sans tête. Nous avons un but à atteindre. L'apôtre dit, je cours. Il y a un but devant moi. Et pour atteindre ce but, je ne traîne pas. Il y a un cantique que nous chantons, c'est sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Pas de tiède, pas de peureux. Nous y allons vaillamment, courageusement. J'aime bien l'exemple de David. Parfois, ça lui arrivait de broncher, mais connaissant l'amour que Dieu avait pour lui, il n'avait pas peur de la sentence. La sentence, elle pouvait venir, mais David allait droit devant, sachant que Dieu va frapper, mais il disait déjà, ta sentence sera juste. C'est y aller avec confiance vers un Dieu qui s'occupe de nous. Et il y mettait le meilleur de lui-même, David. Dans 2 Samuel 24, il a commis une gaffe. Il dit, d'abord, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, on va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Comme ça, David croit que c'est une inspiration, une bonne inspiration, mais vous savez, Dieu, il fait des choses, il sait où il vous conduit. David pouvait aussi dire, que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Parce que c'est Dieu qui l'a excité à le faire. Mais parce que Dieu voulait frapper Israël. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab va essayer de l'en dissuader. Et David va tenir ferme, croyant justement que c'est de Dieu. Peut-être va tenir ferme dans son ordre, Joab va y aller. Et quand on va lui rapporter le rôle du dénombrement, au verset 10, David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. L'iniquité, c'est qu'il savait qu'il ne fallait pas le faire. Dieu ne peut jamais vous demander de faire quelque chose contraire à sa parole, contraire à sa volonté. Balaam, à un moment donné, Dieu lui dit une première fois, n'y va pas. Balaam insiste. Dieu lui dit, vas-y. Il devait comprendre que ce vas-y-là, ce n'était pas bon. L'apôtre dit, c'était le chemin d'égarement. Et David, on sait comment les choses vont se passer, va frapper, ce qui est bien. Maintenant, lorsque la punition vient, on lui dit pour que ça passe, Dieu lui inspire pour que ça passe, il faut offrir un sacrifice. Il va offrir un sacrifice. Gad, le prophète, va venir le trouver, verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Quelqu'un va vite courir, va dire, Dieu m'a béni. Il sait que c'est une punition. Il sait qu'il doit apaiser la colère de Dieu. Il ne veut pas le faire de manière gratuite. Et Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable, te soit propice. Mais le roi dit à Aravna, non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Si ça ne vous coûte pas, vous ne ferez pas de sacrifice. Aujourd'hui, nos sacrifices, c'est la louange, la prière. Il faut que ça vous coûte. Si ça ne vous coûte rien, ça ne sert à rien. Ça va ? La louange, il faut que ça vous coûte. Venir à l'assemblée, vous sacrifier votre temps, il faut que ça vous coûte. Il ne faut pas tout le temps attendre que vous soyez frais et dispo pour cela. Il faut que ça coûte. Et il le faisait d'une manière zélée. Et Paul, lui, quand il avait une course à accomplir, tout comme nous tous, nous avons une course à accomplir. Il fallait que cette course lui coûte. Il y a une résurrection là-bas, plus loin, qui nous attend. Si jamais nous devons nous coucher. Mais pour obtenir cette résurrection, il faut vraiment montrer que vous la voulez. Dieu ne va pas vous l'appliquer comme ça, de force. Il faut vraiment l'obtenir, cette résurrection. Il faut la rechercher, cette résurrection. Il faut courir pour cela. Il faut braver l'adversité pour cela. Philippiens 3, on le dit souvent, Philippiens, cette épître a été écrite alors qu'il était en prison. Il était dans des conditions difficiles. Mais malgré tout, cela ne l'empêchait pas de penser au but qui s'était fixé. Paul n'était pas un aventurier. Les chrétiens n'en sont pas. Verset 12. D'abord, il veut parvenir à la résurrection d'entre les morts, c'est le verset 11. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas parce que je suis là, moi, Paul, apôtre, comme il dit, il s'est présenté, serviteur de Jésus-Christ, et ainsi de suite, et apôtre. Non. Il dit, ce n'est pas parce que je suis apôtre, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 9, qu'après avoir prêché aux autres, il ne voudrait pas être rejeté. Que lui, Paul, il peut venir avec nonchalance. Non. Paul devait courir. Il devait traiter durement son corps. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. vers ce qui est en arrière a souvent tendance à nous alourdir. Toujours à ressasser les choses, ça nous alourdit. Quand vous courez, ne pensez qu'à une chose. Surtout si c'est une compétition. S'il y a un prix à remporter, quand vous courez, courez en ayant les yeux fixés sur la rémunération. Oubliez ce qui est en arrière. Trop penser à ce qui est en arrière va vous faire trébucher. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours. Pourtant, Dieu me l'a promis, mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand une prophétie sort, ne soyez pas paresseux en la regardant. Réagissez au quart de tour. C'est Dieu qui dit cela. Dans Habacouc chapitre 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Ça, c'est pour vous et pour moi. Si ça a été écrit sur des tables. C'est pour nous, afin que celui qui la lit puisse courir. Car une prophétie venant de Dieu, elle a toujours un terme auquel elle va s'accomplir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut courir. Et courir de manière à remporter le prix. Courez, comme il le dit dans 1 Corinthiens 9. Ne courez pas pour le plaisir de courir, mais courir de manière à remporter le prix. C'est 1 Corinthiens 9, 23. Quelqu'un qui va à l'aventure, c'est quelqu'un qui ne sait pas quel chemin prendre. Il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas où il va. On verra bien. Nous, ce n'est pas on verra bien. On sait ce que nous verrons. Vous devez savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Si vous ne savez pas, vous êtes malheureux. Les disciples qui suivaient le Seigneur ont voulu savoir où le Seigneur les conduisait. Ils l'ont suivi, ils ont su qu'il avait les paroles de la vie éternelle, mais où est-ce qu'il les conduisait ? Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Très important. Croyez en cette parole. Croyez-y de tout votre cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qui a construit cela, ce n'est pas votre problème. Comment ça a été construit, ce n'est pas votre problème. Mais il vous dit qu'il y en a. Vous le croyez?
Oui.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Eh bien non, Thomas dit non, on ne sait pas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez? Alors Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la parole. La vérité est la parole. Jésus est le chemin. C'est le seul chemin qui vous conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Or, déjà sur la terre, ils avaient tout quitté, les disciples, pour rester avec le Seigneur. Alors, déjà avec lui, il passait des moments merveilleux ici sur la terre. Comme celui qui est en communion avec le Seigneur ici sur la terre. Quand il est en communion avec le Seigneur, avec toutes les bénédictions qui en découlent, celui-là, à un moment donné, il doit se dire, qu'est-ce que ça doit être au ciel ? Ce vieux frère Bosworth, au moment où il mourait, il savait où il allait. Il a prêché cela pendant toute sa vie. Il a enseigné ces choses, il a prêché. Et au moment où il partait, frère Abraham vient à son chevet et lui dit, mon frère, a dit char d'Israël, n'est-ce pas, qu'il a appelé. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il dit, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de mourir? Il dit, oh, Billy, je suis mort depuis longtemps. Mais quel a été le meilleur moment de ta vie? Est-ce que tu t'en souviens? Il dit, le meilleur moment de ma vie, c'est juste maintenant. Comment ça, c'est le meilleur moment de ta vie? Il dit, mais tout ce que j'ai prêché, ce n'était pas du pipeau.
Non!
Dans quelques minutes, je vais voir ça. Et il en était tellement sûr que Dieu lui a envoyé un comité d'accueil. Ils étaient là déjà, tout autour de lui. Ils sont allés le chercher pour lui montrer que ce n'était pas du pipeau, que c'était la réalité.
Amen.
Et il s'est levé avec les dernières forces qui lui restaient pour saluer ses bien-aimés qu'il avait déjà dévancé. Et eux sont venus le chercher. Alors à ce moment-là, n'essayez pas de prier pour lui, pour qu'il reste encore sur la terre. Lui, tout ce qu'il lui demandera, tout ce qu'il demandera, c'est de partir. Oui. Pour arriver là-bas, Dieu a lui-même frayé un chemin pour que nous puissions y arriver. Maintenant, si vous savez que Dieu a frayé un chemin, mais n'ayez pas peur. Courez. Il y a peut-être des bêtes féroces qui essaieront de vous intimider, Mais tant que c'est le chemin divin, allez-y. Il vous dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais pour y arriver, il faut traverser un désert. Lorsque Moïse entend ça, Moïse, il a dû se poser beaucoup de questions. Traverser ce grand désert. Il en savait un bout du désert, Moïse. Il y avait des enfants, il y avait des ados, des adultes, des vieillards. Et même des personnes que l'esclavage avait déjà usées pendant des années. Et Moïse, certainement, il regardait vers le désert, se demandant comment il allait faire pour conduire ce peuple. Là où Dieu leur a promis de les conduire. Moïse devait se dire que ce n'était pas son problème. Si Dieu dit à quelqu'un ici, prends toute l'assemblée de Firlans, amène-les dans un endroit que je montrerai, ne vous posez pas de questions sur le chemin à prendre, Dieu s'en occupe. Dans Nombre 10, Moïse s'est posé des questions. Au verset 28, nous lisons ceci. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche. Regardez leur marche là-bas en haut, selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse. C'était son beau-frère. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Écoute, toi qui es un nomade du désert, tu connais bien le chemin du désert, viens avec nous et nous te ferons du bien. Notre Dieu est un Dieu qui bénit, viens avec nous, hein, tu auras des bénédictions. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Non, non. Dieu met dans le cœur de Hobab de dire non. Sinon, ce sera grâce à Hobab. Et je suis sûr, Hobab allait les faire passer par le chemin des Philistins. Et ben, c'était le chemin le plus court. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse négocie. Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Bien-aimé, qu'aucun homme ne soit votre guide.
Voilà.
Il risque de prendre des raccourcis pour vous, avec de bonnes intentions. Hein. C'est un raccourci, mais ces raccourcis-là ne vous aideront pas à être prêt à arriver là où vous devez aller. Le chemin par lequel Dieu vous fait passer, c'est un chemin formateur qui vous forme. Quand Paul dit « je cours », ce n'est pas facile. D'ailleurs, il le dit, je cours, je traite durement mon corps. Ce n'était pas facile pour lui de courir dans le sentier, là. Mais il savait que c'était le sentier divin. Jésus-Christ est le chemin, ce n'est pas facile le chemin. Mais c'est le chemin.
Amen.
C'est le chemin du plein salut.
Amen.
Ah, moi, je préfère courir là où c'est plat. C'est un chemin qui monte, qui descend. C'est un chemin désertique. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Lui, il ne connaît pas ça. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux. Voilà le guide. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La parole. Et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. L'arche sait où vous devez vous reposer. Si vous avez assez couru pendant la journée, l'arche sait où vous devez vous arrêter. Parce que sinon, vous risquez de vous arrêter à un endroit où le monde va vous attirer. Et vous allez être pris. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Dieu ne se trompe pas d'itinéraire. Frère Abraham dit, Dieu a pourvu d'un chemin. Un chemin sûr qui vous mènera à coup sûr à Canaan. Vous savez, quand ils sont arrivés en Canaan, le GPS divin ne s'est pas trompé du tout. Eux-mêmes, ils ont donné leur témoignage, n'est-ce pas? Dans Nombre 13, Dieu leur a décrit le pays. Verset 26. À leur arrivée, les espions, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. La Nouvelle Jérusalem, telle que la Bible est écrite, telle que la Bible la décrit, c'est exactement comme ça qu'elle est. Quand vous y arriverez, vous direz également à la vérité. C'est vraiment la ville de perles et de lumière. Vous n'aurez pas couru en vain. La course vaut la peine. Et Dieu a frayé ce chemin. Ésaïe 35. Je cours, ne vous fatiguez pas. Courez.
Amen.
On vous met en prison comme Paul. Courez. Votre course spirituellement ne s'arrête pas en prison. Courez. Ésaïe 35. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des jonques. Là où il y a ces bêtes-là, le chacal. Il y aura là un chemin frayé. Dieu n'a pas peur. Malgré les difficultés, c'est là que Dieu fraye le chemin. Un chrétien n'est pas un aventurier. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Vous avez chanté délivrés. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. S'ils chantent des chants de triomphe, c'est parce qu'ils sont dans la joie. Celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante des cantiques. Il loue Dieu. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Si la joie est éternelle, ils chanteront éternellement des cantiques. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est fini.
Amen.
C'est une course qui vaut la peine. Ceux qui sont dans ce chemin pourvu par Dieu, ils sont légers. Parce que courir alourdi, ils sont. Courir étant apesanti, ça pose des problèmes. Qu'est-ce qui nous apesantit? Luc 21. Ils sont légers. Ils volent presque. C'est à peine si les pieds touchent le sol. Tellement ils courent vite. Yes. Voici ce qui est apesanti. Verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent, ne deviennent lourds par les excès du manger et du boire. Une chose. Deuxième chose, les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous n'avez plus de soucis. Vous les avez déposés à la croix.
Amen.
Vous les avez déposés au pied du Seigneur. Vous avez rejeté tout fardeau qui vous alourdit. Ce péché qui vous enveloppe si facilement. Quand ce péché vous enveloppe, ça entrave votre course. Il faut courir.
Amen.
Joseph a couru. Quand la femme de Potiphar a lui tendu un piège, il a couru. Il a tellement bien couru qu'elle n'a pas réussi à le rattraper. Amen. Il faut courir. Il ne faut jamais écouter le serpent ancien parler. Il parle bien. Il parle trop bien. Dans Hébreux 12, l'apôtre dit ceci. Hébreux 12. Nous donc aussi. Hébreux 12, c'est après Hébreux 11. Ça va? Hébreux 11, ce sont les héros de la foi. OK? Alors, maintenant, il a parlé de ceux de l'Ancien Testament. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ce sont des témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons.
Amen.
Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ne regardez pas à gauche et à droite. Ne fixez pas le serpent dans les yeux. Il va vous hypnotiser. Ou même c'est la peur qui va vous paralyser. Ayant les regards sur Jésus.
Amen.
Lui, c'est le libérateur.
Amen.
Qui suscite la foi.
Amen.
Ainsi, vous serez comme un de ceux d'Hébreux 11.
Oui.
S'il suscite la foi en vous, vous serez comme ceux de Hébreux 11.
Amen.
Ceux dont le monde n'était pas digne. Et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Amen.
Faut courir avec persévérance. Ne vous relâchez pas. Les obstacles ne vous empêchent pas de courir. S'il y a un obstacle, surmontez-le en courant. S'il y a des fils d'Anak, surmontez-le en courant. Il a dit, je serai avec vous. Ceux qui tombent autour de moi ne m'empêchent pas de courir non plus. Je ne dois pas m'arrêter de courir parce que mon voisin où ma voisine est tombée. Je dois courir. Non pas dire, puisque tu es tombé, tombons ensemble. Non. Même ma propre chute à moi ne doit pas m'empêcher de courir. Je dois me relever. Et courir. Oui, monsieur. Le but est trop grand. Il est trop grand pour être négligé. Ne négligeons pas un si grand salut. Ni les persécutions. Ni l'adversité. Paul a achevé sa course malgré les souffrances et l'adversité. Et il a dit avec conviction, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous ne sommes pas ici dans une aventure. Nous nous dirigeons vers un événement glorieux qui va arriver, qui va se passer. Qui est l'enlèvement. Ne réfléchissez pas à comment vous allez surmonter la gravité. Ce n'est pas votre affaire. La gravité, c'est Dieu qui l'a créée. Dieu est grand. Vous savez, Dieu a fait des choses merveilleuse. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Là, à ce moment-là, ce n'était même pas encore la lumière du soleil, puisque le soleil, il l'a créé après. Mais quand nous recevons la lumière du soleil ici, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi nous avons la lumière et sur la lune, il fait noir. Quand ces gens-là vont sur la lune, pourtant la lune, elle nous reflète la lumière du soleil. Mais La terre, c'est une planète bénie où Dieu a décidé de faire quelque chose. Sur les innombrables planètes qu'il y a, il y en a des milliards. Mais sur la terre, le fait que le soleil illumine, c'est un miracle, vous savez. Sur la lune, il fait noir. Quand ceux qui aiment bien y aller, ils y vont, ils doivent éclairer. Et encore, je ne sais pas comment ils font. Parce que pour éclairer, il faut de l'air. Vous voyez, les particules qui forment l'air, c'est ça. Le soleil frappe sur ces particules. Ce sont ces particules qui deviennent et qui nous éclairent. Alors là où c'est le vide, la lumière passe au travers sans que vous ne la voyez. Alors moi, j'aime bien quand les scientifiques nous expliquent ces choses. En fait, ils ne font que m'expliquer la grandeur de Dieu. Mais Dieu est merveilleux. Et il vous explique ça avec des yeux. Eux, ils s'émerveillent sur les créatures. Nous, nous émerveillons sur le Créateur. Amen. Oh, Dieu est grand. Courez, vous ne courez pas en vain. Il y a une récompense à la fin de la course. Prions le Seigneur. Nous ne sommes pas à l'aventure. Si vous ne voyez pas encore le but, il faut le voir, ce but. Si vous ne le voyez pas, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux.
Amen.
Les yeux du cœur.
Amen.
Que vous puissiez le voir,
Amen.
Ce but. Et courez en ayant les yeux fixés sur ce but. Amen. Vous savez, cette ville de perles et de lumière, quand je la chante, je la vois. Je la vois. Je ne l'imagine pas, mais je la vois. Elle est tellement bien décrite par la parole qui est la vérité. Prions le Seigneur. Père Céleste, te remercions pour cette vocation, pour l'appel que tu nous as adressé. Ce n'est certainement pas pour une aventure quelconque, mais il y a un endroit où tu veux nous mener. Jésus-Christ a dit, il veut que là où il est, que nous soyons avec lui. Et nous essayons, nous sondons les Écritures, nous cherchons l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous fasse voir ce beau endroit qu'il est parti nous réserver. Pour que nous reprenions chaque fois courage dans notre course lorsque nous en arrivons à faiblir. S'il nous arrive de tomber, aide-nous à nous relever, à nous dépousseter, à enlever toute la poussière que nous aurons amassée dans notre chute, que nous puissions continuer tout simplement à courir. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Cette ville de perles, nous voulons la voir. Nous voulons y marcher. Oh, cette lumière provenant de l'agneau, qu'elle nous éclaire. Merci pour le chemin frayé. Ce chemin me mène droit au but, comme tu as amené les enfants d'Israël droit au but, au travers du désert. Et ils ont trouvé le pays exactement comme tu leur as décrit pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Nous aussi, nous trouverons l'endroit exactement comme tu nous l'as décrit pendant que nous étions encore sur la terre. Merci pour cette promesse, merci pour ta grâce. Accompagne-nous dans nos maisons. Sois avec nous, Seigneur. Que tu bénisses tes enfants. Que tu sois avec ceux qui sont absents ce soir, dans leurs travaux, dans les occupations qu'ils ont. Que tous ceux qui sont prêts à prendre, à entamer le voyage, que tu sois leur guide. Sois le guide d'un chacun. Merci pour ce jour, merci pour ce moment que nous avons passé. Paul nous apprend que parfois il faut traiter durement le corps. Nous ne voulons pas cajoler ce corps parce qu'il peut être un obstacle à ce que nous arrivions au but. Mais c'est lui qui était un homme comme nous, la même nature que nous. S'il a pu traiter ainsi, il a dit, c'est par ta grâce, c'est par la grâce de Dieu. Nous aussi, par la même grâce, nous y arriverons. Et nous aurons cette assurance que désormais la couronne de justice nous est réservée. Nous remettons entre tes mains. Et pour les jours à venir, nous comptons toujours sur toi. Rends-nous vainqueurs dans les combats. Aide-nous à surmonter, à passer au travers des montagnes, au travers des vallées. Que ta houlette et ton bâton nous conduisent. Et pour les lieux de repos, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié, l'avons demandé. Amen.